C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Connaissez-vous Super Cero? De son vrai nom, Nicolas Aragona, il est né en 1988 et il vit à Nice, en France. Nicolas vit avec le VIH depuis 15 ans. Depuis 2020, il publie des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il raconte son quotidien. Il le fait avec humour, indignation et revendication, sa façon de remettre les personnes vivant avec le VIH au centre de la lutte contre le VIH. Nicolas a même créé un drapeau VIH, un peu comme les drapeaux de la fierté. On écoute d'abord une vidéo de Super Cero.
Scroll pas sinon je te tape.
J'ai un truc à te montrer mais c'est pas mon queue. Il y a quelques semaines j'ai proposé un drapeau pour les personnes vivant avec le VIH et je viens de le recevoir. Et je suis tellement mais pas du tout déçu du rendu. Donc dans quelques temps je l'imprimerai en plusieurs exemplaires pour que bah plein de gens puissent l'avoir.
Waouh, mais qu'est-ce que tu fais bien le drapeau.
Merci. Et me démerderai pour que pour les prochaines marches tout le monde en est plein. Je suis trop content, il est juste, je sais pas quoi dire, il est juste trop beau.
Merci, je dirais même merci à vous tous. Pour les rageux, je vous emmerde et je reste à ma maison.
Alors, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Nicolas.
Merci de me recevoir.
On demande toujours aux gens, quand c'est la première fois qu'ils passent à l'émission, on lui demande les pronoms et accords qu'on utilise avec toi.
Peu importe.
Alors, Nicolas, tu connais bien la stigmatisation liée à la maladie, puisque tu as grandi là-dedans. Comment as-tu grandi, donc, dans cette stigmatisation?
Elle est dure déjà la première question. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais qu'on y aille smooth. Tu vois. Ça a été très compliqué dès le départ, mais vraiment par rapport à la stigmatisation, parce qu'en soi, j'ai jamais eu de soucis par rapport au VIH. J'ai pas connu de phase SIDA, j'ai pas connu de traitement lourd comme la ZT ou quoi. Moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai le VIH, donc j'ai jamais eu de problème de santé vis-à-vis de vivre avec le VIH. Par contre, ça a été, c'était suite à une rupture. Je voulais refaire ma vie et j'étais parti à Montréal pour m'installer. Et c'est à Montréal que j'ai fait ma primo-infection et on n'a pas su ce que j'avais. J'ai dû rentrer en France en urgence. C'est le laboratoire qui m'a rappelé en me disant effectivement il y a une infection, il y a quelque chose de grave qui demande un traitement d'urgence. Retourne voir ton médecin. Mon médecin généraliste n'était pas là, c'était son remplaçant. Le remplaçant nous a fait attendre, comme dans les années 80, j'étais avec ma mère, il nous a fait attendre des heures dans le cabinet jusqu'à la fin de journée pour nous recevoir une fois que le cabinet était éteint, que c'était la nuit, enfin que c'était très glauque. Tout ça pour nous dire que oui, effectivement, c'est très grave, mais lui prenait pas la responsabilité de nous l'annoncer, qu'il fallait que j'attende que ça soit mon médecin qui revienne de vacances d'ici 2 semaines. C'était vraiment surréaliste et même la suite ça a été j'ai attendu 6 ans pour qu'un médecin me dise que j'allais pas mourir, tellement même les indications étaient floues. Alors on m'a répété plein de fois faut faire attention, le médecin me disait n'en parler à personne sans m'expliquer pourquoi. Rien que le terme sérophobie, je l'ai entendu que 10 ans plus tard en arrivant sur les réseaux. On n'avait jamais entendu parler de cette discrimination. C'était faites attention. Alors faites attention à quoi? Je sais pas. C'était très flou. Quoi qu'il en soit, j'avais toujours l'impression d'être toujours à côté de la plaque parce que si jamais avec mes médecins je montrais que j'allais bien, on me faisait comprendre que quand même c'était quand même pas si peu grave ce que j'avais et que bon voilà, il fallait pas trop que j'aille bien. Et si j'avais si je montrais à mes médecins que ça allait pas trop, que j'avais pas le moral, là on avait tendance à me dire le contraire du type ouais, ça va, il y a pire, ça va aller. Donc en fait, quoi qu'on fasse,
quoi qu'on fasse, c'était toujours fais attention, n'en parle pas, garde ça secret. Alors comment tout ça t'a amené à créer ce, je sais pas si on peut dire ce personnage, mais du moins cette chaîne sur YouTube, pas sur YouTube, sur TikTok, Instagram, Super Cero.
Je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose dès le départ. Hein, je pense qu'il y a eu, moi, ça a été tous mes amis m'ont tourné le dos. Je me suis retrouvé avec des lettres de menaces de mort du jour au lendemain. Je pouvais plus sortir parce que j'avais des insultes et des menaces de mort quand j'allais en boîte.
Sérieusement, des menaces de mort dans les années 2020. Là, on parle quand même, je sais pas, 2010.
Ouais, il y a 15 ans, la première semaine chez mes parents, j'avais déjà reçu des courriers sur les sites de rencontres aussi. C'était sur Guéroméo à l'époque, même en boîte de nuit. Enfin, j'ai mis quelques semaines avant de retourner en boîte de nuit. La première fois que j'y suis retourné, on m'a craché à la gueule en me disant qu'on voulait pas de sidaïque dans la boîte. Enfin, c'était vraiment très très violent. Mais du coup, je me disais bien que putain, j'ai été ultra étonné de vivre un truc comme ça parce que quand je l'ai su, j'avais pas eu de problème à en parler moi assez librement. Mais quand j'ai vu la violence que je me suis pris dans la gueule, je ne me suis pas étonné de ne pas en connaître. Parce que j'ai dû me dire, il doit y avoir plein de gens dans ma situation, mais qui n'en parlent pas tellement c'est violent, quoi. Et donc j'ai toujours voulu faire quelque chose, mais quoi, je ne savais pas trop. Et puis c'est vraiment au bout de 10 ans, avec la Covid, que je me suis dit peut-être que là, les gens seront peut-être prêts à entendre. Il y a aussi le fait que mon père était décédé, venait de mourir, et que je me suis dit, bon, ben maintenant que mon père est mort, je me sens peut-être un peu plus d'attaque à lutter contre les discriminations, parce que mon père était fragile, c'était quelqu'un de nerveux, etc. Donc je pense que je voulais aussi le préserver de ça.
Tu avais peur donc de le secouer et puis que ça ait des conséquences sur sa vie, quoi.
Oui, sur sa vie, sur sa santé, quoi. Et je pense que j'ai bien fait, hein. Quand je vois ce que je me prends, je me suis dit, putain, je pense
que... Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques. Justement, parlons d'abord des messages que tu véhicules dans les... parce que j'en ai vu beaucoup de ces vidéos de Super Séro. Parlons-en d'abord de ces vidéos. Qu'est-ce que tu véhicules? Qu'est-ce que tu fais comme message?
C'est déjà, rien que le point de départ, il est compliqué parce que je viens à la base sur les réseaux pour parler de ce que vivent les personnes vivant avec le VIH, de sérophobie. C'est mon premier angle, c'est ça. C'est déjà de parler de ça et d'essayer de temps en temps d'avoir un ton un peu humoristique que j'ai un peu perdu ces derniers temps avec le harcèlement. Et en fait, même ça, ça a été très compliqué au départ parce que finalement, toutes les personnes sont venues me demander de faire de l'information en santé sexuelle. Donc, on me posait que des questions sur la syphilis, la chlamydia, les IST, où se faire dépister, comment se faire dépister. Et même encore aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer aux gens. Moi, je veux bien répondre aux questions parce que maintenant, on m'a tellement posé ces questions-là que je suis allé chercher les réponses, donc je les ai en général. Mais c'est compliqué d'expliquer aux gens. Vous savez, moi, je ne suis pas Santé publique France, je ne suis pas SIDA Info Service. Si vous avez des questions sur votre santé sexuelle, appelez SIDA Info Service, allez dans des Cégides, allez dans des laboratoires pour vous faire dépister. Mais tu vois, plein de gens me disent, c'est super ce que tu fais quand tu fais de la prévention. Je dis, je ne fais pas de la prévention. Moi, le sujet, c'est les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, à la limite, je fais de la prévention sur la sérophobie, contre la sérophobie, mais pas en santé sexuelle. Mais en fait, j'en fais beaucoup, hein, parce que c'est beaucoup les questions reviennent, c'est sur ça. Donc, on voit qu'il y a un manque de sensibilisation, d'information sur le fait qu'il y a véritablement un vrai combat à mener pour les droits des personnes vivant avec le VIH, et pour nous, simplement, par rapport à ce qu'on subit tous les jours. Et que si on parle, c'est pas forcément dans l'intérêt des autres dans leur santé sexuelle. C'est pas non plus, c'est pas qu'on veut pas. Enfin, c'est pas que je veux pas, mais c'est que c'est pas mon rôle. Moi, j'ai pas de formation. Je suis pas. C'est des métiers qui sont formés. Il faut être informé sur tout ça.
Mais en tant que personne vivant avec le VIH, en tant que personne séropositive, tu possèdes une expertise, celle de la maladie que tu vis et de la sérophobie que tu subis. Mmh. Et ça, tu peux facilement en parler sur les réseaux sociaux.
C'est par exemple, on vient tout le temps me reprocher de dire que soit je banalise, parce que j'essaie de dire que aujourd'hui, voilà, quand on a un traitement, on va bien, on a une bonne espérance de vie, on ne développe pas la maladie. Donc quand je dis ça, j'ai beaucoup de réactions du type tu banalises. Et quand je dis qu'il y a ça a un fort impact sur notre santé mentale, que la sérophobie isole, qu'il y a beaucoup de gens qui en arrivent à se suicider, à mettre fin à leur jour à cause de cet isolement, là on me dit ça va, tu fais que chialer, mais il y a pire que ça. Bon, c'est compliqué, c'est-à-dire je pense qu'on a tellement mis dans la tête des gens que tout le monde était légitime à parler du VIH, sauf nous, visiblement, que tout le monde y va un peu de son avis, et c'est un peu compliqué à déconstruire. Après, je dis ça, mais c'est aussi un peu gonflé, parce que j'ai quand même aussi beaucoup de soutien, mm-hmm. On a beaucoup de personnes qui nous suivent, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de gens qui sont derrière nous.
Bien, justement, parlons-en de cette situation-là, parce que ça a vraiment atteint un paroxysme récemment, parce que je pense qu'on t'accuse de parler au nom de ces organismes ou de prendre leur place, si tu veux. Comment ça s'est déclenché tout ça et on en est rendu où, là?
Et en fait, j'ai voulu être bénévole dans une association qui était aide, et quand je suis allé les voir... Je m'attendais pas à ça. Ça a été extrêmement violent parce que quand on m'a demandé ce que moi je voulais faire plus tard ou pourquoi est-ce que je voulais être bénévole ou qu'est-ce que c'était ma sensibilité, j'ai dit que voilà, j'étais séropo depuis 10 ans, que je me sentais très seul, que j'avais l'impression qu'il y avait rien, pas grand chose pour nous. Déjà à ça, on m'a coupé en me disant non, c'est pas vrai, il y a plein de choses pour les personnes séropositives. Ah bon, je sais pas, je les connais pas. Bon, rien que ça, j'ai senti déjà que je les avais agacés. Et en fait, je disais que je voulais faire une antenne de témoignages pour personnes séropositives, que j'avais beaucoup entendu que visiblement on ne voulait pas parler en tant que personne séropositive parce qu'on avait très peur. mais que c'était pas mon cas, que moi j'ai toujours voulu témoigner, mais c'est juste dire quand on veut témoigner, en fait, on contacte qui? Parce que ça n'existe pas des antennes de témoignage pour personnes séropositives. Et finalement, on parle tout le temps à la place des séropos en disant qu'on ne veut pas parler, mais y a rien pour nous rencontrer. Donc moi j'aimerais bien pouvoir m'exprimer, aller quelque part et dire ce que je pense et ce que je ressens. Mais on va où en fait quand c'est comme ça? Et là j'ai eu une réaction hyper étonnante qui a été de me dire que ce que je disais c'était très, très dangereux, que les personnes séropositives elles devaient rester cachées pour leur sécurité, que le plus important c'était que les autres ne finissent pas comme nous et soient séronégatifs. Enfin, des propos qui étaient hallucinants. Et j'ai eu de cesse hein, depuis 5 ans de rencontrer dans des structures des discours, moi, que j'appelle préventionnistes. C'est pas de la prévention, c'est du préventionnisme. C'est-à-dire avec des biais assez sérophobes, avec un oubli des droits des personnes séropositives. Et puis parfois, tu tombes sur des gens qui sont engagés dans la lutte, mais qui ne sont pas engagés pour les droits des personnes séropositives, qui sont engagés parce qu'elles-mêmes ont peur d'avoir le VIH, et je le comprends aussi, hein, et sont engagés parce qu'elles-mêmes se sentent plus protégées, peut-être, en luttant pour eux, pour leurs droits et pour leur accès à la santé. Et c'est important, mais dans certains cas, bon, bah, ça a un peu oublié aussi les personnes séropositives, quoi. Je suis un peu fragile psychologiquement en ce moment, donc je ne sais pas comment vraiment l'aborder, mais même moi, ça me dépasse. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que je tape aux associations en disant que ce n'est pas normal d'avoir autant de visibilité pour ma part sur les réseaux. Là, on touche, je pense que je suis suivi par 500 000 personnes à peu près. Donc, tous les jours, j'ai des personnes séropositives qui me contactent, qui ont besoin d'aide. Je n'ai pas de relais. Je ne sais pas comment les diriger. Ça fait 5 ans que je pleure aux assos en disant qu'il faudrait qu'il y ait une ligne SOS sérophobie, un espace pour nous, dédié pour nous, dédié pour lutter contre la sérophobie. Moi, je suis menacé de mort tous les jours. J'ai pas une association sur la lutte sur le VIH/SIDA qui m'aide. Enfin, je suis un peu, moi, je me sens un peu dépassé, quoi, par ça aussi.
De me prendre pour un super héros. C'est à vous que je m'adresse. Si vous pensez que les personnes vivant avec le VIH ne sont pas des super héros, héroïnes, alors vous n'êtes pas des alliés. Toutes les personnes vivant avec le VIH sont des super héros, héroïnes. Déjà parce qu'on sauve votre cul, c'est-à-dire que c'est grâce à nous qu'on brise les chaînes de transmission, et surtout qu'en plus de vous sauver le cul, on se prend de la sérophobie et de la haine sans arrêt. Ça fait 40 ans qu'on y survit. 40 ans de médias qui nous comparent à des assassins, des violeurs, des contaminateurs. 40 ans qu'on est exclu de la société et qu'on vit dans une putain de solitude. Et 40 ans qu'on vous sauve le fiac. Comment vous pouvez vous prétendre dans la lutte contre le VIH-Sida? Déjà, ce serait bien d'appeler la lutte contre la sérophobie, hein, on n'est pas en 1985. Comment vous êtes capable de dire à des personnes vivant avec le VIH qu'elles ne sont pas des super-héros, héroïnes, guerrières, queens, ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On est des putains de survivants. On est des putains de guerriers, on s'en prend plein la gueule tous les jours, on survit. Et vous, vous pensez quoi? Qu'on va être humble? Pardon, mais il faut qu'on soit humble face à l'homophobie. Il faut qu'on soit humble face au racisme, face à la misogynie, face à toutes les formes de discrimination. Donc c'est quoi le plan là? C'est récupérer une lutte qui vous appartient pas et demander aux personnes concernées de quoi? D'être humble et de vous remercier aussi. Parce que les personnes séronégatives qui sont dans la lutte contre le VIH-Sida, qui me parlent comme si elles étaient concernées, qui pensent que j'en ai quelque chose à faire de leur opinion ou de leur avis sur une lutte qui ne vous appartient pas. Tranquille, hein. Moi, je vois clair dans ton jeu.
Remettez-vous en question. Vous avez vu, il y a une moustache.
Ben oui, c'est un peu rigolo. Hein. Nicolas Ragona donc subit beaucoup de violence depuis quelques mois en raison de conflits, notamment avec des associations de lutte contre le VIH en France. Et ceci l'affecte beaucoup, mais il continue sa démarche. Il a même fondé une association pour soutenir les personnes vivant avec le VIH qui subissent de la discrimination, et ça, pas seulement en France.